Donc, la question la plus importante à se poser est la suivante. Comment un commerce en ligne peut-il augmenter ses ventes, son trafic et son taux de conversion? Eh bien, qui dit question dit également réponse. À chaque mardi, vous aurez donc la chance d'entendre des experts d'un peu partout du milieu francophone. Abonnez-vous, prenez des notes et soyez attentifs. Bienvenue à tous au podcast Commerce Élite. Bienvenue à tous au nouvel épisode du podcast Commerce Élite, présenté par l'agence Pure Commerce. Mon nom est Antoine Gagné et mon objectif est de vous aider à bâtir un commerce élite. Et cette semaine, on discute avec le directeur marketing de la boutique en ligne en forte croissance, Perry Cart. Jean-Sébastien Paré nous explique d'ailleurs une stratégie totalement exceptionnelle qu'il a mis en place avec son e-commerce dans les dernières années. Bonne écoute! Comment booster vos ventes en fin de mois? Aujourd'hui, on va discuter ensemble d'une stratégie gagnante pour faire grimper vos ventes. On a fait un test vraiment intéressant le mois passé. L'objectif ici est de cibler les meilleurs clients pour leur offrir un incitatif à dépenser. Deux éléments clés, une bonne segmentation, emailing et une offre qui parle. Premièrement, comment cibler vos meilleurs clients? Utilisez les bonnes techniques de segmentation. L'objectif est d'avoir un segment assez grand pour générer des ventes, mais sans inclure tous vos contacts. Voici quelques critères d'ailleurs. Des contacts super engagés, un segment d'au moins 1000 personnes, un segment également avec 10% de votre liste d'engagés sur 60 jours et des contacts qui n'ont pas acheté récemment. Dans notre test, on a obtenu un segment d'environ 700 personnes sur plus de 7000 contacts engagés. Pour cibler les super engagés, on a inclus seulement les contacts qui ont ouvert ou cliqué plus de 3 emails dans les 60 derniers jours ou les contacts qui ont ajouté des produits à leur panier au moins deux fois sans acheter dans les 60 derniers jours. Prochaine étape, quoi mettre dans l'email? Proposer une offre intéressante qui n'affecte pas trop vos marges. Dans notre exemple, on a offert la livraison gratuite sans minimum d'achat. C'est une offre qui incite à l'achat, surtout si les clients sont fidèles. On n'aura pas besoin de l'offre du siècle ici. Le format de l'email, pour donner un côté plus personnel à la communication, on a choisi un envoi en plain text. Ça renforce la relation avec vos clients et ça les incite à ouvrir et lire votre message. Un email classique en HTML aurait aussi été efficace. Les résultats potentiels? En appliquant ces techniques, on a généré 1 600 $ supplémentaires lors de notre test interne. À vous de tester ceci pour dépasser vos objectifs en fin de mois en récompensant vos meilleurs clients. Quand remonte la dernière fois où vous avez fait une apparition médiatique importante? Très souvent, ces initiatives peuvent donner des bons résultats si on a le bon interlocuteur qui passe notre message. Mais les résultats peuvent même devenir grandioses si on prend le temps de penser à une stratégie encore plus approfondie avec la même apparition. Jean-Sébastien Paré, directeur marketing de Paré Cart, est avec nous aujourd'hui pour nous dire comment lui et son équipe ont été capables d'utiliser leur présence à occupation double et par la suite de transformer l'initiative en résultats totalement incroyables sur le moyen long terme avec l'entreprise. Bonne écoute. Donc, on est de retour sur le podcast Commerce Élite en mode discussion et aujourd'hui, je suis avec Jean-Sébastien Paré, directeur marketing chez Perry Cart, une entreprise e-commerce qui se spécialise dans les soins de beauté et soins pour cheveux. Et Perry Cart a entrepris un virage numérique assez prononcé pendant la COVID. Les résultats sont assez époustouflants. On va en discuter aujourd'hui ensemble. Mais avant toute chose, Jean-Sébastien, merci beaucoup d'être sur le podcast Commerce Élite aujourd'hui.
Merci à toi de l'invitation, mon cher.
Et Jean-Sébastien, je pense que ça pourrait être très bénéfique pour l'audience. Tu peux nous parler un petit peu de comment était votre organisation un petit peu avant la COVID, parce que je sais qu'il y a eu beaucoup de changements au niveau du virage numérique qui s'est déroulé. Et à quoi ça ressemble au mois de juin 2023 pour bien situer les gens qui nous écoutent?
Absolument. Ben, on a un concept assez unique, je pense, dans le commerce en ligne. À la base, Paré Cart est une entreprise de service. Donc, ça fait 29 ans qu'on existe. On a des centres de beauté sur la rive sud de Québec, à Lévis, à Saint-Romuald. Donc, on fait la coiffure esthétique, médecine esthétique. On n'avait pas avant 2017 de vente en ligne. On avait une petite partie détail en salon. Mais c'est majoritairement une entreprise de service. Puis en 2017, on a entamé un virage numérique tranquillement, juste se lancer dedans pour que justement, ben en 2020, quand la pandémie est arrivée, ben nous, on était déjà prêts à ce virage numérique-là. On était déjà prêts à attaquer les opportunités qui étaient là. Ce qui a fait que on a pris une énorme part de marché dans les produits de beauté professionnels au Québec, majoritairement. On est passé de quelques centaines de mille avant à plusieurs millions après pandémie. Puis même actuellement, on continue de garder le même pace qu'on avait pendant la pandémie. Fait que pour nous, ça a été un énorme levier, puis ça a surtout créé un énorme changement dans ce que Paris-Corps est devenu, qui était initialement des salons de coiffeur, puis maintenant, c'est réellement un commerce, une entreprise plus 360. On a la majorité de nos ventes qui sont maintenant sur la partie en ligne, mais nos services ont augmenté depuis. Donc, c'est pas une baisse de services qui compense pour l'augmentation. On a une augmentation de notre chiffre d'affaires dans les salons, mais malgré tout, le commerce en ligne a pris au-dessus de 50% du chiffre d'affaires de l'entreprise.
Donc, littéralement, on pourrait dire que une ligne d'affaires nourrit l'autre, là.
Ouais, exactement.
C'est exceptionnel. Tout ça est bon. Il y a plusieurs choses, je pense, qui vous a aidé à aller chercher plus de ventes en ligne. Et l'objectif avec ce podcast-là est toujours de décortiquer des études de cas qui pourraient aider nos auditeurs qui sont directeurs marketing propriétaires de e-commerce pour les aider dans leur commercialisation. Et je pense qu'il y a un cas que vous avez vécu dans les dernières années qui est relié à une expérience avec Occupation Double qui finalement s'est tourné comme quelque chose de très positif de votre côté. Pourrais-tu nous en dire plus?
Absolument. Je pense que quand on voit des gros partenariats comme ça avec Occupation Double ou peu importe quel autre gros show, on le voit initialement beaucoup pour de l'awareness. On se dit, les gens vont nous voir. Ça ne tend pas nécessairement à une rentabilité directe. Sauf que nous, en tant que PME, on pouvait pas se permettre d'avoir un gros investissement parce que c'est vraiment dépendu. On pouvait pas avoir un gros investissement sans au moins avoir une stratégie pour se dire, OK, mais comment on peut le rentabiliser d'une certaine partie là, en étant conscient qu'on rentabilisera pas nécessairement tout, mais qu'on peut penser différemment de ce qu'il fait habituellement puis juste dire, ils vont dire merci à nos partenaires au début de l'émission. Est-ce qu'on peut creuser là-dessus puis avec notre expertise qu'on avait déjà en e-commerce puis des partenaires qu'on avait à ce moment-là qui étaient extrêmement curieux. Christophe, avec qui je travaillais depuis un bon moment, qui est un ami du cégep. Bref, on a eu l'idée de créer un concours derrière ça. Puis l'idée est venue même avant Occupation Double. Puis le concours est assez particulier, là. C'est ça, je pense, qui est intéressant de creuser. Mais l'idée est venue avant Occupation Double, puis on s'est dit on va le négocier dans le contrat pour être capable de prendre ça comme levier. Fait que moi, avant même d'aller à Occupation Double, je savais que j'avais déjà une stratégie pour rentabiliser directement l'investissement. Puis eux, comme grande business, voient beaucoup leur valeur dans les présences à la télé. Fait que un concours sur les réseaux sociaux, c'est pas quelque chose qui valorisait vraiment, même pas du tout. C'était la chose dans notre contrat qui était le moins coûteux et pourtant qui était celui qui était le plus important pour nous. Fait qu'on a décidé d'utiliser évidemment l'image d'Occupation Double parce qu'on est partenaire pour créer un concours sur les réseaux sociaux qui se passait sur Messenger directement. Donc à l'époque, on peut plus faire ça, mais à l'époque, les gens pouvaient transférer des messages à les personnes avec qui ils sont amis sur Facebook sans limite. Fait qu'on pouvait, si tu m'envoies un message, je pouvais le transférer à n'importe qui. Je faisais juste cliquer sur tout le monde puis s'envoyer à tout le monde. Nous, on s'est dit, on va utiliser ça comme levier pour partager le concours, pas seulement juste dire hey, like and share notre concours sur Facebook. Donc, les gens partaient du premier post, arrivaient sur Messenger et pendant 3 jours, il y avait des étapes à faire. Première étape, c'était de s'abonner à nos différents réseaux sociaux, donc Facebook et Instagram. De ça, on a récolté environ 10 000 abonnés juste avec ces étapes-là. Deuxième étape, c'est de donner leur courriel. Donc, avec des courriels, les gens, dans le fond, recevaient un autre message le lendemain, puis on avait fait ça super, super interactif. On avait fait des gifs, on avait été impliqué l'équipe. C'est vraiment quelque chose de convivial, de le fun. Ça venait un peu comme un jeu. Fait qu'avec les courriels, les gens mettaient leur courriel, puis quand ils accomplissaient, ça c'est une chose que j'ai oublié de dire, mais quand ils accomplissaient une action comme aller liker la page ou peu importe, ils accumulaient des points, puis à la fin, ils pouvaient gagner le concours qui était, si je me rappelle bien, un voyage au même endroit où ce que Occupation Double était à cette année-là, il me semble. Donc quand même un concours assez intéressant, puis il y avait des produits à travers ça. Bref, les gens accumulaient des points, donc rendu au courriel, pour nous, c'est quelque chose qui était un peu plus intéressant, là. On, tu sais, d'aller chercher cette information-là, fait qu'on donnait un petit peu plus de points. Fait que là, ils allaient chercher leurs points-là. Troisième étape, c'était la partie de partager aux gens. Fait que cette partie-là, ben, on a mis énormément de points dessus parce qu'on veut plus qu'il va y avoir de monde qui partage, mais plus qu'après ça, on va aller récolter tout le reste. Puis, et là que ça a fait exploser, on avait vraiment vu une augmentation exponentielle du nombre de concours parce qu'une personne qui partage à 10, puis 10 autres personnes le partagent à 10 autres. Ça augmentait énormément pour finalement arriver à la dernière étape qui était un achat. Puis, on a mis un code promo. Puis directement sur cette action-là, on a récolté 35 000 $ de vente d'extra avec le code promo en quelques jours seulement, qui était pour nous à ce moment-là, ben, c'était de l'extra parce que c'était 80 % des nouveaux clients. Puis on a généré 35 000 $ de vente avec 0 $ de pub. Fait que ça nous a permis de rentabiliser un investissement parce que tout ce qui était fait à la TV a été fait en plus, puis toutes les autres choses ont été faites. Mais c'est d'avoir pensé initialement comment est-ce qu'on peut, en tant que PME, leverager le gros nom d'Occupation Double à ce moment-là, ça peut être n'importe quel autre partenariat qui est d'envergure. Mmh. Comment est-ce qu'on est capable de penser différemment? Puis pas juste accepter le fait que c'est de l'awareness, mais être capable de creuser plus loin. Puis des fois, ça va être difficile. Des fois, il n'y aura pas nécessairement des occasions. Mais nous, à ce moment-là, on voyait cette opportunité-là d'aller chercher des abonnés, chercher des courriels. On a eu une liste de 10, 12 000 courriels. Chercher justement des ventes directes de nouveaux clients. Puis des ventes qui sont directement dans notre target market parce que l'audience d'Occupation Double, c'est, on est dans le 20-35 majoritairement féminin, fait qu'on était vraiment directement dedans. Donc ça a été un coup de circuit, si je peux dire, de notre équipe d'avoir fait ça, d'avoir été chercher justement ça à faible coût parce que je pense que le concours c'est une centaine de piastres qui nous chargeait, c'était ridicule.
Littéralement. Donc ici, c'est littéralement de se poser la question qu'on a une couverture médiatique qui va être massive. Comment qu'on est capable d'utiliser cette couverture médiatique-là, d'être créatif peut-être dans notre approche avec notre marketing numérique et d'aller chercher quelque chose qui, au final, n'était pas dans le deal, soyons honnêtes. Mm-hmm. Et c'est vous qui avez créé ça de manière créative.
Ben c'est exactement ça. Puis je pense que c'est important dans tout ce qu'on fait d'être créatif puis juste de se poser la question, y a-t-il quelque chose que je peux faire de plus? Puis des fois, la réponse va être non, mais si on se pose pas la question, on peut pas le savoir. On assume que ça, c'est le end all be all, puis il n'y a rien d'autre après. Ben, on se posera pas la question, on n'aura pas d'autres opportunités. Fait que nous, ça a été OK, ben moi, je me fais dire c'est trop cher Occupation Double pour qu'on puisse aller là. Je pense qu'à ce moment-là, c'était un très, très bon moment. L'émission avait une belle réputation. On était dans le sweet spot de Occupation Double, selon moi, à ce moment-là. Fait que ça a été comme OK, ben on se lance, mais au moins on a quelque chose, tu sais, on va être capable d'aller chercher de quoi, puis juste d'aller chercher le 35 000 $ de vente avec 0 $ de publicité autre. Ben pour nous, ça a été rentabilisé directement. Fait que je pense que c'est ça. C'est de penser à comment est-ce qu'on peut faire quelque chose de plus, comment est-ce qu'on peut être créatif, comment est-ce qu'on peut contourner en restant dans les normes, mais contourner ce qui se fait de façon conventionnelle. Je pense que c'est ce qu'on était capable de faire à ce moment-là.
À tous les auditeurs du podcast Commerce Elite, j'ai une question pour vous aujourd'hui. Est-ce que la croissance de votre commerce en ligne va à la vitesse dont vous le souhaitez? Est-ce que dans votre plan marketing, vous avez la bonne balance entre campagne Facebook et Google Ads, stratégie emailing adaptée ou encore création de vidéos natives? Chez Pure Commerce, on s'est aperçu à travers les années que nos clients en commerce électronique qui avaient la croissance la plus forte possédaient chacun des éléments mentionnés plus haut. Et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'on a bâti une agence 100% dédiée à la croissance des boutiques en ligne, en offrant tous les services qu'une boutique se doit d'avoir pour grandir. Donc, si vous désirez un nouveau partenaire de croissance pour débuter l'année en force, rendez-vous au www.purecommerce.co/analyse. Donc, je le répète, purecommerce.co/analyse, ou encore venez me parler directement sur LinkedIn afin qu'on puisse regarder comment on peut vous aider. Je me ferai le plaisir de personnellement discuter avec vous afin de vous bâtir sur mesure une analyse de vos efforts actuels ainsi qu'un plan de match personnalisé. De retour à l'épisode en cours. Et puis au final, en plus de ça, vous avez été capable d'aller chercher toute cette visibilité-là qui vient avec une présence de la sorte, quelque chose plus difficile à calculer, mais peut-être qu'au final, vous avez été capable de sentir un peu les répercussions.
Absolument. On l'a vu sur notre trafic, même à long terme. Là, on a vu le trafic qui augmentait, même quand on avait des présences plus intéressantes dans les émissions. Bon, on voyait le trafic du site web. Quand je parle à des gens de Montréal ou ailleurs, ben, il y avait le « Ah oui, je pense que je l'ai vu à Occupation Double ». Fait que c'est dur à calculer directement qu'est-ce que ça a pu apporter, évidemment. Mais je pense que c'est ça. En plus de ça, ben, on avait la base, si je peux dire, du contrat qui nous donnait cette visibilité-là.
De faire une bière deux coups, ça, je pense que c'est quelque chose que n'importe qui nous écoute Exactement. Aujourd'hui peut penser. On a un apport de visibilité qui va se créer. Comment qu'on est capable d'utiliser ce levier-là et d'en faire une campagne de conversion directe? Très, très intéressant. Jean-Sébastien, j'aimerais pousser un petit peu la réflexion, plutôt la discussion maintenant sur le fait d'être distributeur. Parce que c'est ce que vous êtes chez Paricard. Vous êtes distributeur de plusieurs produits. Tu le dis à la base. Vous êtes une entreprise de services qui tranquillement a bifurqué avec une plateforme qui vend beaucoup de produits en ligne. Au final, quelles sont les difficultés ou peut-être même les avantages d'être davantage un détaillant qu'un créateur de produits à proprement dit?
Il y en a plusieurs. Je pense que les deux gros viennent un peu ensemble. Le gros avantage et le désavantage viennent ensemble. Le gros avantage, c'est que souvent, quand tu as des détaillants, nous, on est détaillants de marques qui sont reconnues mondialement. Donc, les gens savent c'est quoi Kratos, savent c'est quoi Redken. Ils vont venir chercher nos produits. Même si peut-être ils nous connaissent pas, nous, par écart, ben, ils vont dire, OK, ben, cette entreprise-là vend ces produits-là. Fait qu'on on a une traction qui est faite par la marque qu'on vend. Par contre, de l'autre côté, on a beaucoup de restrictions par rapport à ce qu'on peut faire. Fait que ce soit des promotions, des lancements, peu importe quelconque initiative, on est bloqué parce que c'est pas nous qui décide nécessairement qu'est-ce qu'on veut faire. Il y a des entreprises qui sont un petit peu plus loose. Il y en a qui ont des guidelines très, très serrées. Fait qu'on a la chance de profiter de la notoriété des marques. Par contre, de l'autre côté, ben on est pris avec on n'a pas le choix de faire ce que vous voulez. Mais de ça découle aussi, OK, ben si il y a plusieurs compagnies comme Paricard, comme n'importe quel autre de nos compétiteurs, ben t'as pas le choix de te démarquer par le service que tu offres parce que tu vas offrir la même promotion, tu vas offrir le même produit au même prix. Fait qu'après ça, ben c'est nous, comment est-ce qu'on fait la meilleure publicité, comment est-ce que quand les gens rentrent, on les garde chez nous, on pousse sur le service, puis ça, c'est quelque chose que nous, on fait super bien à l'interne depuis qu'on a lancé notre e-commerce parce que c'est notre focus premier. Puis ça a été notre focus du côté des services avant. Quand les gens rentrent en salon, ben on veut leur offrir une expérience qui est hors du commun. On a juste transféré cette expérience-là en ligne de la meilleure façon qu'on pouvait. Puis jusqu'à maintenant, ça fonctionne bien.
Ça fonctionne très bien même. Et est-ce que c'est peut-être dans les plans dans le futur d'intégrer des produits que vous allez être créateur également ou vous voulez rester vraiment dans la catégorie du distributeur?
Moi, je pense que ça peut être dans les plans. Ça va être à voir quel type de produit on veut développer. C'est énormément d'investissement. C'est beaucoup de temps. Créer son propre produit, puis surtout dans un marché extrêmement compétitif comme la beauté, pour être capable de, je pense, cibler les bonnes opportunités. On a déjà, au niveau des accessoires à cheveux, on a des tailleries en soie, des produits qu'on a fait développer, nous, de notre côté. Mais en termes de produits consommables, si je peux dire, on n'en a pas jusqu'à maintenant. Ça pourrait peut-être être des projets pour le futur de Paricard, c'est certain.
Intéressant. Bon, il y a un point que je trouvais assez fascinant dans la discussion qu'on a jusqu'à maintenant, c'est le fait que pendant que votre e-commerce est allé chercher des parts de marché, vous avez vu également une augmentation de la clientèle au niveau de vos centres de coiffure, donc de votre volet service. Ouais. Comment toi, qui es en charge du marketing dans l'entreprise, tu attaques les deux volets? Est-ce que littéralement à la base, quand tu penses à ta stratégie e-commerce, automatiquement dans le fond de ta tête, tu penses à ta stratégie de service? Est-ce que vous attaquez ça de deux fronts totalement différents? Est-ce que même si ce sont deux équipes, je serais curieux de t'entendre ici.
Ben, dans le fond, nous, on a une seule équipe marketing. Donc, on n'a pas, on split pas les salons versus le e-com. On a une équipe qui travaille pour tout le monde. Comment est-ce qu'on fonctionne jusqu'à maintenant? Nos salons roulent à plein régime. Fait que pour le moment, on n'a pas vraiment un enjeu, si je peux dire, d'être super agressif sur les promotions ou l'acquisition de clientèle parce que, évidemment, il y a toujours de la place pour plus quand on vend des produits sur place, même si c'est pas quelqu'un qui vient recevoir un service. Mais notre majeur focus d'acquisition de clientèle, si je peux dire, est en ligne. Par contre, toute l'acquisition de notoriété qu'on fait en ligne avec le Paricard Web a un énorme impact en salon sur le trafic, sur juste les gens qui vont aller magasiner un peu sur notre site web, puis vont venir en salon essayer les produits ou vont vivre leur première expérience en ligne, vont faire comme « Ah wow, j'ai vraiment une belle expérience, le monde est fin », puis ils vont voir sur nos réseaux sociaux, OK, ils voient qu'on fait aussi la coiffure, blablabla, et là, ils vont rentrer en salon, aller consommer des services. Sinon, ben on aime beaucoup faire amener évidemment le plus possible nos clients qui magasinent en ligne à venir magasiner en salon, que ce soit des services ou des produits, peu importe, mais on aime beaucoup donner des promotions sur des nouveaux clients en ligne pour les amener vers devenir un nouveau client en salon. Fait qu'il y a optimiser l'expérience omnichannel le plus possible. Mais je te dirais que le focus actuellement marketing pour l'équipe est beaucoup en ligne, mais tout ça a un énorme impact positif sur le en salon. On le voit par juste le changement de clientèle. On a beaucoup plus. Puis tu sais, le en ligne et oui, e-commerce, mais aussi réseaux sociaux, ces choses-là. On voit là, un changement de clientèle. On voit une clientèle plus dynamique qui vient dans nos salons, puis une demande sans cesse. Là.
Donc, c'est vraiment du collatéral positif qui se crée ici. Donc, de manière indirecte, vous voyez l'augmentation qui se crée.
Exactement. Puis si jamais on a d'autres salons, ben là, c'est là qu'on va peut-être avoir une stratégie plus complète d'acquisition de clients pour les salons.
Je trouve ça tellement fascinant parce qu'on s'entend, un des gros défis dans le commerce en ligne, quand on vend des produits physiques, bien entendu, c'est la marge. On doit avoir un certain volume. On a un gros inventaire à tourner. Mais ce qui est intéressant, c'est que pour des entreprises comme la vôtre, et il y en a d'autres, qu'on est capable de bâtir une autre ligne d'affaires qui soit peut être dans le service, peut être peut-être même des fois dans la formation en ligne. On peut vendre des produits qui peuvent venir avec des cours en ligne, qu'on est capable d'intégrer d'autres lignes d'affaires. C'est là qu'au final, on est capable d'aller chercher peut-être un petit peu plus de profitabilité qui est, soyons honnêtes, des fois difficile à aller chercher dans le e-commerce à cause des marges qui sont sensiblement limitées. Donc, ce collatéral positif-là, je le trouve assez intéressant ici.
Oui, exactement. Puis je pense que c'est dans notre vision de bien faire qu'est-ce qu'on fait. Puis après ça, ben comment est-ce qu'on peut ajouter? C'est comme on a ajouté le e-commerce au salon parce qu'on faisait... On avait quelque chose de solide, on ajoute les e-commerce. Après ça, est-ce qu'on va ajouter la création de produits? Est-ce qu'on va ajouter une académie de coiffeurs? Est-ce qu'on va ajouter plein de choses qui peuvent être faites?
Bien sûr.
Nous, notre vision, c'est on va s'assurer d'être super solide dans les piliers qu'on a déjà. Après ça, on bâtira, on court pas après n'importe quelle opportunité. On est ouvert à tout, mais pas à n'importe quoi. Fait que je pense qu'on ça va être notre façon de croître et certainement là, d'ajouter justement des pièces au puzzle.
Un écosystème qui est en train de se construire. Donc ça, c'est clairement un truc à se rappeler. Peut-être pour terminer, à quoi ressemble objectif, vision, commercialisation pour les 12-24 prochains mois? Est-ce que vous avez un focus précis chez Paricart?
On a un focus d'acquisition de clientèle sur e-commerce. C'est vraiment notre plus gros focus actuellement. On veut continuer de faire connaître notre marque davantage par notre expérience qu'on est capable d'offrir en ligne. Puis on va se servir de cette visibilité, de notoriété-là, éventuellement peut-être pour l'ouverture de d'autres salons à travers le Québec. Projets qui sont encore encore dans nos têtes et non sur papier, mais je pense qu'on a une belle vision de croissance ici. On a une équipe qui est super dynamique, qui veut avancer, puis je pense qu'on a un concept qui est intéressant pour une clientèle n'importe où au Québec. Fait que d'apporter quelque chose de nouveau, quelque chose d'axé vers le client n'importe où au Québec, ça devrait bien fonctionner. Fait qu'après ça, c'est juste de voir les opportunités qui vont s'offrir à nous. Mais c'est vers le qu'on s'en va.
Fantastique. Ben écoute, Jean-Sébastien, assez intéressant le cas que tu nous as partagé aujourd'hui avec Occupation Double. J'espère que les gens qui nous écoutent aujourd'hui, qui pensent à une activité, une initiative médiatique avec quelqu'un qui a une très, très grosse audience, vous êtes capable de penser de manière un petit peu plus globale, de se dire comment je peux prendre cette visibilité-là qui va se créer et en faire quelque chose d'encore plus grandiose. Donc, clairement, un cas très intéressant. Je te remercie. Si on veut en savoir un petit peu plus sur Paricart, puis site Internet, médias sociaux, c'est où l'endroit le plus simple pour vous rejoindre?
Oui, médias sociaux, Paricart sur Facebook, sur Instagram, site web www.paricart.com. On est trouvable assez partout, assez facilement. Et si jamais il y a des questions par rapport à quoi que ce soit sur l'étude de cas ou juste avoir envie d'en savoir plus ou de jaser, ben moi aussi je suis toujours disponible pour jaser. J'aime bien ça, partager et apprendre des autres aussi. Fait que je viens à Paris à commercial@paricart.com par courriel ou sinon vous pouvez me trouver ailleurs, LinkedIn, n'importe quoi. Vous allez me trouver facilement.
Fantastique. On mettra tout ça dans les notes de l'épisode. Jean-Sébastien, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Pour les gens qui nous écoutent, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Commercial Libre.